Le 23 septembre 1971, Gilles Leblanc, âgé de 10 ans, a été enlevé pour la somme de 3 000 $. La rançon a été déposée à 2 reprises, mais elle n'a jamais été réclamée. Son corps a été retrouvé 2 jours plus tard et sa tête a été écrasée par une grosse pierre. Dans cette affaire, la seule personne qui a été incarcérée pour le meurtre, c'est mon père. Près de 50 ans après les faits, j'essaie de faire la lumière sur ce qui a bien pu se passer.
OK, ça me donne le goût de regarder ça.
Écoute, j'ai une conversation avec Stéphanie, justement, qui fait le documentaire, puis elle m'a dit peut-être que ça ne sort pas dans la meilleure période.
Celle qu'on vient d'entendre, oui, c'est Stéphanie Desèves, la fille. Rappelle-nous le nom du suspect.
Germain Desèves. Parce que ce qui est arrivé, bon, on a entendu la prémisse, c'est très bien expliqué, là, ce cas en 1971, ce jeune garçon, Gilles Leblanc, qui s'est fait enlever, qui était retrouvé mort. Il y avait un certain Jean-Guy Pellant qui a avoué avoir fait partie de l'enlèvement et qui a mentionné que, dans le fond, le vrai meurtrier, c'était un homme du nom de Germain Desèves. Germain Desèves a eu un procès. Il a été déclaré coupable. Et il est entré en prison et par la suite, il a fait appel et finalement, il a été acquitté après un deuxième procès. Et même si lui, Germain Desèves, a toujours clamé son innocence, il n'a jamais été blanchi. Et il a toujours resté certains soupçons autour et c'est un peu comme une prison sociale parce que là, il est jugé par la population. Alors, un jour, il a dit à Stéphanie, sa fille, qui est dans le domaine des médias, qui est recherchiste, qui est conceptrice d'émissions de télé, il a dit « Moi, je veux parler ». Elle a dit « Écoute, ça se fait pas comme ça, là. Tu vas pas parler comme ça, tu vas le faire avec moi ». Donc, elle a décidé de mener cette enquête, de faire du ménage. Il fallait la faire là parce qu'il y a des gens qui commençaient à mourir. Il y avait, tu sais, elle a dit « J'ai une liste, j'ai un fichier Excel, c'est tout rouge, tous des gens qui sont décédés ». Mais elle a choisi quand même d'aborder une approche qui est beaucoup plus objective que ce que son père lui demandait. Elle ne voulait pas nécessairement le protéger. On l'écoute.
Mais moi, je suis pas vraiment là pour défendre mon père. Dans le sens que moi, je suis en quête de vérité sincère et profonde, là. Donc, que ça l'aide d'un bord ou de l'autre, je suis pas vraiment là pour ça. Mais j'essaie de faire une œuvre honnête, parce que c'est l'objectif n'est pas... mon père est pas tout blanc dans la vie, là. Et il y a une partie de ça. Il faut assumer ces parties d'ombre, là.
Donc...
Mon Dieu!
Oui,
et c'est la fille qui dit ça.
C'est sa fille qui dit ça, puis je l'ai trouvée courageuse dans sa démarche parce que elle a grandi avec cette histoire-là. Elle avait entendu toutes sortes de choses. J'ai vu 2 épisodes. Je ne sais toujours pas là, si le père en question est coupable ou pas. Moi, je pense que non. Mais tant qu'on n'a pas vu la fin, parce qu'on a parlé un petit peu de comment c'était pour se dérouler, j'ai demandé à Stéphanie, coudonc, est-ce qu'il va y avoir une résolution de cas? Est-ce qu'on va avoir le cœur net au bout du 4e épisode?
Tu sais, je ne suis pas là à la fin devant une table en train de dire, ben voici ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Non, je pense que je vous amène avec moi tout le long de ça. Vous faites votre propre idée. Moi, je m'en suis fait une, mais je suis pas tant là dans le commentaire. Ceci dit, je pense qu'on a réussi à taire plusieurs rumeurs, et ça, c'était important pour moi, parce que ces rumeurs-là, ça alimente une communauté depuis des années. Si elles ont été plantées là par qui, on ne saura jamais. Si tu es journaliste de l'époque, si tu es les policiers de l'époque, si tu es les gens de la communauté qui faisaient circuler ces rumeurs-là, I don't know. Mais ça, c'est certain qu'il y aura quelques rumeurs qui vont être mises à mort, là.
Et elle dit qu'elle a donné quand même la parole à beaucoup de monde. Elle a essayé vraiment d'aller le plus large possible. Elle a même parlé avec un des membres de la famille de la victime. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que Stéphanie Desèves, elle est très empathique à cette jeune victime qui est décédée, à sa famille. Elle comprend toute la douleur. Elle sait que ces gens-là ont été blessés. Ça a fait très mal aussi à la communauté. Puis elle dit qu'elle a rencontré assez de témoins pour qu'on soit capable, nous, de nous faire notre propre idée. Et là, j'ai demandé à Stéphanie, je dis, écoute, ton père, par contre, après le processus, comment est rendue votre relation l'un avec l'autre?
On n'a pas eu la chance de se rasseoir ensemble. Donc, moi, j'ai vu mon père en décembre pour une première entrevue où il a, ma foi, craqué. Et j'ai jamais vu un homme pleurer comme ça de toute ma vie. Et je l'ai revu pour une dernière entrevue il y a peut-être 6 semaines. Mais depuis, on ne s'est pas revus. On s'est parlé la semaine dernière. Ceci, moi, ce que je peux te dire, c'est que, contrairement à ce que j'aurais pu penser, j'ai beaucoup plus d'empathie pour lui, voire même un peu plus d'amour. Puis, ce que je comprends mieux, c'est l'homme qu'il était début vingtaine, puis d'où il vient, puis surtout les impacts que tout ça a eu sur lui, tu sais, psychologiquement, qu'il l'ait fait ou non. Alors ça, c'est la grande surprise, admettons, pour moi.
Et elle m'a dit qu'il y a eu quand même une jase qui était plus confrontante entre elle et son père. C'est la partie que je n'ai pas vue. Mais depuis qu'elle travaille sur cette histoire, elle a reçu, parce que ça a fait lever la poussière hein, dans la communauté. Puis là, elle reçoit beaucoup de messages désobligeants. Il y a des gens qui écrivent des trucs haineux, qui sont pas d'accord avec sa façon de faire. Puis elle, ce qu'elle comprend, c'est que oui, tu sais, les gens sont pas nécessairement guéris de cette histoire-là, mais il va falloir que ça arrive. Peut-être qu'ils ont ce besoin-là.
Le premier coup de fil que j'ai passé à un ancien élève, c'est un homme de 60 ans que j'avais au bout du fil, puis il pleurait parce que personne n'a jamais abordé ce sujet-là avec eux post cet événement. Puis après ça, ben les mentalités ont changé. Ils ont mis une clôture autour de l'école. Ils ont barré les portes de l'école. Donc, cette communauté-là, ça va leur faire quelque chose. Il y a une génération de gens en Outaouais qui ont été marqués par ces événements-là, de près ou de loin. Alors oui, je reçois de la merde un peu, mais écoute, je pense qu'ils ont besoin d'en parler. Puis j'espère qu'ils vont pouvoir se rencontrer entre eux, appeler quelqu'un, un parent, un ami, pour discuter de comment ils se sentent, parce qu'à cette époque-là, ils n'ont pas eu le soutien dont ils avaient besoin.
C'est une autre époque. Hein?
Ouais, c'est une génération complète. La façon dont les policiers fonctionnaient, là aussi, on se rappelle que c'est tout de suite après la crise du FLQ. Le monsieur Germain de Sèvres, là, s'est fait brasser, pas à peu près. Vous allez voir, j'étais en choc après ça. Là. Écoute, il s'est fait enfermer dans une valise de voiture, s'est fait frapper, il s'est fait menacer avec un fusil dans la bouche.
Pas mal le pire crime dont on peut être accusé. Là.
Absolument. Donc, c'est ce soir, 21h, à Canal D, fille de tueur, point d'interrogation. Donc, on pose la question.
Très bien.
Mais c'est très intéressant.
Très, très intriguant. C'est une bonne guide pour aller dans un documentaire comme ça. Je ne l'ai pas vu, là, mais juste sa voix, la façon dont elle raconte ça. Très, très charismatique, cette femme-là.
Elle l'est, c'est vrai.
OK, 16h46, on va s'arrêter. Arrêtez vous dire qu'à 17h05, on va parler avec la députée libérale Marois Risky. Elle a été enseignée toute la semaine pendant sa semaine de congé de députée. Et au retour, une chanson de Demi Lovato, le sourire de Donald Trump et oui, des masques qui sentent le bacon.